La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent Nouveau regard sur notre histoire. Une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec Notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Nous vous proposons ce soir tout d'abord un entretien avec l'auteur Denis Monnière qui vient de faire paraître aux éditions de l'Action nationale « Le devoir de cohérence, écrit indépendantiste ». Et en seconde partie de l'émission, nous vous proposons une entrevue avec l'historien Marcel Bellavance qui viendra nous entretenir de son ouvrage « Le Québec et la Confédération, un choix libre » paru chez Septentrion. Bonne émission. En première partie de l'émission, Robert Comeau s'entretient avec Denis Monnière, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, de 1978 à 2012. Denis Monnière vient de faire paraître aux éditions de l'Action nationale « Le devoir de cohérence, écrit indépendantiste » et c'est le sujet dont il sera question dans l'entrevue qui suit.
Bonjour, Monsieur Monnière.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de votre engagement politique. Et avant d'aborder plus à fond votre dernière publication, Le devoir de cohérence et vos écrits indépendantistes, si vous me permettez, je vais d'abord récapituler votre cheminement. Vous avez été un militant indépendantiste depuis 50 ans. Vous avez adhéré au RIN dans les années 60, en 65 plus précisément. Puis, vous avez toujours été assez critique face au Parti québécois. Vous avez même créé des partis politiques, le Parti nationaliste en 85 et le Parti indépendantiste.
Je corrigerai. C'est-à-dire que le Parti nationaliste, non, c'est pas grave. Le Parti nationaliste a été créé en 82 et le Parti indépendantiste en 85. Il faut peut-être rappeler ici quelques éléments de contexte pour justifier pourquoi, moi, comme universitaire, je veux mettre mes connaissances en application. Et pourquoi donc, en 82, j'ai écrit un ouvrage. C'est d'ailleurs, tout ça est encore lié à un autre livre que j'avais écrit, publié en 81, qui s'appelait « Pour la suite de l'histoire » et qui essayait de développer une stratégie après l'échec référendaire et le rapatriement unilatéral de la Constitution. Qu'est-ce qu'on fait quand on est coincé dans cette situation? Et là, j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait créer un parti indépendantiste sur la scène fédérale, parce que le Québec était représenté à Ottawa par 74 députés fédéralistes. Et donc, ils utilisaient tous les outils du pouvoir politique pour inculquer aux Québécois l'adhésion au Canada et l'adhésion au fédéralisme canadien. Donc, il y a là aussi un lien direct avec mes connaissances analytiques ou théoriques que j'avais développées dans les années antérieures. Et donc, j'ai fondé à ce moment-là avec Marcel Léger, qui était ministre du Parti québécois, le Parti nationaliste. Nous avons présenté 75 candidats aux élections fédéral de 1984, et le Parti québécois, par la bouche de son chef René Lévesque, a décidé en 1984 d'appuyer le Parti conservateur et non pas un parti qui visait la promotion de l'indépendance du Québec. Alors, vous voyez, déjà là, c'est une prise de conscience des ambiguïtés qu'il y avait au sein du Parti québécois ou de toutes les manœuvres ou les magouilles, les liens qu'il y avait entre les conservateurs fédéraux et certains porte-parole du Parti québécois.
Et c'est à ce moment-là que vous créez en 85 le Parti indépendantiste.
Ben, oui, c'est parce que le Parti québécois, à partir de 84, est en pleine déliquescence, dans la mesure où il renonce à son objectif. Là, je rappelle ça à nos auditeurs.
Il y a beaucoup de ministres qui avaient quitté.
Oui, il y a eu une crise au Parti québécois parce qu'on avait renoncé à l'article 1. Le Parti québécois n'était plus un parti voué à la réalisation de la souveraineté. Le Parti québécois devenait un parti pour l'affirmation nationale du Québec. Donc, le Parti québécois devenait, autrement dit, nationaliste au lieu d'être indépendantistes. Et donc, que font les indépendantistes si le Parti québécois ne veut plus faire la lutte pour l'indépendance? Ben, on s'est dit, on va se créer un parti pour être cohérent avec nous-mêmes, pour défendre nos convictions et comme citoyens, être en mesure de s'exprimer durant une campagne électorale. Parce qu'une campagne électorale, c'est un moment important dans la vie d'une société. C'est un moment où on réfléchit intensément aux grandes orientations, aux choix que prendront nos concitoyens. Et si une hypothèse ou une thèse ou une option est absente du débat, ben cette thèse-là n'aura pas d'importance, n'aura pas de conséquences et l'opinion publique va la délaisser.
Alors, c'est pour ça que vous avez toujours cru aux partis politiques et vous avez même créé, plus récemment, vous avez été un des trois fondateurs du nouveau parti Option nationale avec M. Rossan et...
Oui, j'ai été une des trois personnes qui l'a porté sur les fonds baptismaux. En 2011, nous avons créé ce parti qui, bon, a eu connu... Des problèmes avec la démission de M. Rossan en juin 2013. Mais bon, c'était aussi là une tentative pour donner une voix, une expression aux indépendantistes qui avaient été exclus, je vous le rappellerai, du Parti québécois. Là, on est quand même dans l'absurdité où un parti qui, en principe, veut faire l'indépendance du Québec exclut ceux qui veulent faire la promotion de l'indépendance.
Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. On dit souvent, un parti, s'il n'y a pas un mouvement social, ça a peu de chances d'avancer. Quand on regarde l'histoire des années 60, il y a eu d'abord un mouvement indépendantiste, le RIN, et c'est seulement en mars 63, trois ans plus tard, que le mouvement s'est transformé en parti.
Oui, mais le RIN n'était pas vraiment un mouvement. Le RIN a toujours été...
Un groupe de pression au début.
C'est-à-dire qu'il n'était pas un parti au sens où il n'était pas enregistré dans le système politique.
Officiellement.
C'était un parti, il fonctionnait comme un parti, je veux dire.
Dès le départ.
Mais bon, c'est vrai que statutairement, la décision n'est prise qu'en 63. Mais je vous rappellerai, mon cher Robert, qu'en 62, Marcel Chaput avait créé un parti indépendantiste qui s'appelle le Parti républicain du Québec, précisément parce qu'on tergiversait au RIN. Et pourquoi on tergiversait? Ben, c'est toujours le même problème. Hein? C'est le problème des alliances implicites. À l'époque, il y avait des gens qui ne voulaient pas nuire au Parti libéral parce que le Parti libéral était porteur de la Révolution tranquille. Donc, on se disait, mais si on crée un nouveau parti, ça va nuire au Parti libéral. Et effectivement, le RIN a fait battre le Parti libéral aux élections de 1966 et a fait passer l'Union nationale. Bon, de toute façon, on ne construira pas l'histoire, mais il y a quand même des facteurs lourds hein, dans notre histoire collective et la tergiversation ou les têtes à queue ou les hésitations, les ambivalences, ça fait partie de notre culture politique.
Il y a quelque chose de particulier au Québec avec la création des partis. On est sans doute la province qui a créé le plus de partis politiques. Il y a quelque chose d'étonnant.
C'est vrai, mais c'est parce que le Québec est une société qui n'est pas intégrée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une vision claire de son destin. Et donc, forcément, on tente plusieurs approches, plusieurs pistes. On explore plusieurs pistes parce qu'on est dans l'incertitude de notre destin collectif. C'est vrai qu'en Ontario, ils n'ont pas besoin de 14 partis. Il y a trois options possibles. Et au Québec, non, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux au Québec. Il y a un enjeu qu'on appelle national, ce qui n'est pas le cas en Ontario. C'est pour ça qu'il y a plusieurs partis qui existent au Québec.
Revenons à votre dernière publication, « Le devoir de cohérence, écrit indépendantiste ». Alors, quel est exactement l'objectif et le contenu de cet ouvrage? Ce petit ouvrage, en fait, qui regroupe beaucoup de petits textes, hein,
oui.
150 pages à peu près.
Oui, c'est des interventions que j'ai faites dans les débats depuis 2007. En fait, le devoir de cohérence, c'est le titre d'un article que j'avais publié dans le Devoir en 2007 pour critiquer la nouvelle position du Parti québécois qui était la gouvernance souverainiste. Alors là, j'étais un peu ulcéré. Vous savez, quand on est un universitaire, on cherche à rallier ou à lier l'action à des principes. Et si on ne peut pas s'entendre, s'il y a des incohérences dans les principes de notre action, ben, il est évident que ça a des impacts négatifs sur les résultats qu'on peut obtenir. Alors, effectivement, en 2007, le Parti québécois va abandonner l'idée de faire un référendum et va proposer plutôt de gouverner dans un cadre provincial avec l'idée d'améliorer la situation du Québec, de défendre les intérêts du Québec, mais dans un cadre fédéral. Alors voilà, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui est incohérent. Un parti dont l'objectif est de faire l'indépendance, mais qui dit on le fera pas, hein, on le fera pas, on va être élu pour gouverner dans le cadre d'une province. On va, autrement dit, défendre la position traditionnelle. On revenait, il y avait une régression politique à mes yeux, puisqu'on revenait au duplessisme en quelque sorte, puisqu'on préconisait l'autonomie du Québec dans un cadre canadien.
Ceux qui défendent cette ligne-là invoquent, et je vais juste pour essayer de me faire l'avocat du diable, invoquent ça en disant que si on veut un jour faire un référendum, il faut d'abord être au pouvoir. Et on nous répète, et je sais que vous ne partagez pas ce point de vue-là, qu'une fois rendu au pouvoir, c'est la meilleure place pour faire la promotion de l'indépendance. Donc, élisez-nous et on fera la promotion après. Et ça s'est avéré, cette pédagogie-là, assez désastreuse.
Désastreuse, mais écoutez, il faut être cohérent, encore une fois, je le répète. Si vous gouvernez une province et que vous essayez d'adopter des lois, des mesures pour favoriser ce qu'on appelle la cause nationale, pour favoriser toutes sortes d'avancées ou d'intérêts qui supposément sont en faveur du Québec, vous le faites dans le cadre canadien. Qu'est-ce que vous dites comme message? Le discours que reçoit le citoyen, c'est que si je peux faire tout ça comme province, pourquoi j'ai besoin de l'indépendance? Il y a une contradiction fondamentale. Parce que nos citoyens, là, ils écoutent ce que les politiciens disent. Et quand on nous dit, par exemple, qu'on peut gouverner en fonction de la souveraineté dans le cadre du Canada, ben, je ne comprends pas, dans la mesure où on légitime le système politique canadien. Prenons un exemple classique, la loi 101, fleuron de la gouvernance péquiste. Bon, effectivement, ça a bien marché pendant quelques années, mais aujourd'hui, la loi 101 est en lambeaux. Hein? Le Canada l'a absorbée.
Au fond, chaque bataille est à reprendre.
Chaque bataille, non seulement elle est à reprendre, mais en même temps, elle convainc les Québécois que le fédéralisme est un bon système, parce qu'on n'a pas besoin d'en changer, puisqu'on peut faire adopter des lois qui protègent notre avenir. Alors, je me suis dit, bon, là, il faut commencer à clarifier les choses, parce que sinon, ça va tourner en eau de boudin, et je pense avoir eu raison, sur le plan, en tout cas, de l'analyse, puisqu'on a vu à la dernière élection que les Québécois ont compris...
On trouvait ça incohérent. C'est devenu incohérent,
non, cette attitude-là. Mes études électorales, Robert, m'ont montré une chose, c'est que ce qui est le principe essentiel dans le choix de l'électeur, c'est la confiance. L'électeur a besoin de faire confiance à des partis, parce qu'il va élire ces partis pour gouverner dans l'avenir. Dans l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a besoin de confiance. Un parti qui tergiverse, un parti qui ajuste son discours en fonction de la conjoncture, qui adopte des positions de droite quand l'opinion va à droite, des positions de gauche quand l'opinion va à gauche. Un parti qui...
Ça n'inspire pas confiance.
Ben oui, et en plus, quand un parti prend le pouvoir et ne livre pas la marchandise, ne fait pas ce qu'il a dit qu'il ferait, qu'il trahit ses promesses, comme le Parti québécois l'a fait dans certains cas depuis 2002 lorsqu'il était au gouvernement, ben, les gens ne peuvent pas dire « je fais confiance à ces politiciens pour décider à ma place ». Et c'est ça la démocratie, hein? Les partis décident à la place des citoyens.
En fait, vous dénoncez toutes les mystifications. Pour vous, le PQ qui a réussi à faire la promotion de son programme sans parler d'indépendance, au fond, ça veut dire que vous reprochez au PQ d'avoir remplacé la souveraineté par la logique autonomiste, oui, de l'affirmation nationale, parce que la gouvernance souverainiste, ça nous ramène à une forme d'autonomisme provincial. Et j'ai bien aimé dans votre texte le long développement où vous expliquez la différence entre nationalisme et indépendantisme. On peut être nationaliste sans être indépendantiste, mais est-ce qu'on peut être indépendantiste sans nationalisme?
Oui, on peut parfaitement être indépendantiste sans être nationaliste, mais là, il faut savoir ce qu'on met dans le mot nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste dans notre contexte? Ça veut dire accepter la situation de peuple minoritaire. Parce que le nationalisme au Québec, là, c'est pas une nouveauté. Là. Ça
date depuis 1840.
Depuis l'acte d'union, on essaie, par toutes sortes de moyens, de préserver nos acquis culturels en s'insérant dans un jeu politique où on ne contrôle rien puisqu'on est une minorité.
C'est-à-dire un nationaliste conservateur.
Bien, conservateur, pas toujours conservateur.
Non, conserver la langue, conserver...
Conserver nos institutions, nos droits, nos lois, etc. C'est l'autonomie, c'est ça. Donc, un nationaliste, essentiellement, c'est quelqu'un dont la pensée accepte le statut de peuples minoritaires. Bon, un indépendantiste, c'est quelqu'un qui, au contraire, veut que le Québec devienne une majorité, que le Québec se dirige par lui-même, contrôle toutes ses lois, tous ses impôts et ses relations avec l'étranger. Et donc, ceci est incompatible avec le cadre canadien. Il faut donc combattre le cadre canadien. Il faut combattre le système politique canadien. Or, le problème avec le Parti québécois, c'est qu'il y a, dans les discours, il n'y a jamais de critique du fédéralisme canadien. La dernière campagne électorale était particulièrement significative à cet égard. Écoutez, quand est-ce qu'on a entendu parler du désastre de Mégantic dans la campagne électorale? Quand est-ce qu'on a entendu parler du péage sur le pont Champlain durant la campagne électorale? Le fédéral n'est jamais au cœur de nos préoccupations. On l'évacue. On fait comme s'il n'y avait pas d'État fédéral dans la logique péquiste. Et ceci se transfère évidemment dans la logique Québec solidaire, malheureusement, qui ne font jamais la critique du fédéralisme canadien. Comment voulez-vous que les Québécois adhèrent à l'indépendance si le Canada est un merveilleux pays, si le Canada nous permet de faire n'importe quoi, si le Canada, dans le fond, n'est pas une entrave à notre développement collectif? Alors, c'est ça un des problèmes ou une des incohérences du Parti québécois. Il y en a plusieurs, mais ça c'est la
fondamentale. Donc, ne pas avoir parlé de la situation globale à l'intérieur du Canada.
Bien
effectivement,
sûr.
En demandant de voter stratégique, c'est comme si l'ennemi, c'était le Parti libéral du Québec, point,
c'est
et
ça.
Non pas la structure fédérale.
Exactement.
Qui nous maintient en minorité.
Exactement.
Alors, c'est effectivement cette attitude-là, la critique du vote stratégique est longuement expliquée dans votre ouvrage. Et comment expliquez-vous l'émergence des nouveaux partis, Québec solidaire et Option nationale? C'est essentiellement...
Il n'y a pas de mystère.
C'est les faiblesses
la science politique. La science politique prévoit tout ça. La science politique n'a pas d'énormes capacités prédictives, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut prédire. Quand un parti politique institué change de position, se déplace sur l'échiquier pour aller chercher des électeurs, par électoralisme, se déplace donc vers la droite ou vers la gauche, automatiquement, on est certain qu'un nouveau parti va apparaître pour occuper le terrain laissé vacant. Par exemple, quand le Parti québécois s'est déplacé vers la droite sur le plan social, Québec solidaire est apparu. Quand le Parti québécois s'est déplacé sur le plan constitutionnel en mettant son option de côté, en disant « on ne fera pas la promotion de l'indépendance si on est élu », Option nationale est apparue. Même chose, ça s'est produit en 1985. Quand le Parti québécois abandonne son option, change son article 1, ça libère une place sur l'échiquier politique et un autre parti va apparaître. Parce qu'il y a une base, il y a des électeurs, il y a une pensée politique qui correspond à ces objectifs, soit le socialisme pour Québec solidaire, ou soit l'indépendantisme pour Option nationale, ou le parti indépendantiste qui a été créé en 1985. Donc, c'est des phénomènes incontournables. Et ça, on peut le savoir, on le sait, on connaît ces choses-là.
Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que l'indépendance, c'est conditionnel à un projet de société, qu'il faut d'abord être d'accord avec un projet de société pour opter... C'est toute la position de Québec solidaire actuellement.
Oui, mais non, mais c'est un peu absurde, là, passez-moi l'expression, parce que un projet de société, c'est un débat permanent. Que le Québec soit indépendant, il y aura un débat de société. C'est jamais fini, un débat de société, par définition. Et donc, pourquoi faire le débat de société avant, et de toute façon, on le fera après. On va être obligé de le faire, ça, c'est inéluctable. Donc, il faut, pour l'instant, s'entendre sur des objectifs communs. Si on n'a pas la capacité de s'entendre sur le but, sur la réalisation de l'indépendance, ben, à ce moment-là, le projet de société, c'est de la poudre aux yeux. Ça ne fait qu'introduire de la confusion dans le débat. Nos citoyens ont besoin d'avoir une vision claire de l'avenir et c'est pour ça qu'il faut d'abord privilégier la promotion de l'indépendance. Mais ceci ne veut pas dire qu'on fait abstraction des enjeux de société. Ça ne veut pas dire qu'on n'intervient plus sur le développement économique, sur la conception de l'environnement, etc. Non, il faut continuer à avoir des positions sur les enjeux principaux, mais il ne faut pas en faire des obstacles à l'unification ou à la cohérence dans notre objectif fondamental.
Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup de l'histoire de la pensée politique et vous êtes un des rares analystes à vous être intéressé à l'Union législative de 1840, ce qui est souvent un oubli chez ceux qui parlent de politique et de notre histoire. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à mettre autant d'importance à l'impact de 1840 sur la pensée politique?
Bien, c'est un impact considérable parce que avant 1840, le projet national, disons, du Bas-Canada, était axé sur l'accession à l'indépendance, sur l'établissement d'institutions républicaines et sur les institutions démocratiques, la démocratisation de la société. C'était les trois grands objectifs du mouvement patriote. Après 1840, ces éléments-là sont complètement évacués du discours officiel canadien-français. C'est l'Église qui prend la direction des affaires. Les politiciens sont soumis à la domination du Canada de l'Ouest, en fait, le Canada Ouest. Et à ce moment-là, ils ont perdu toute capacité d'initiative en fonction des intérêts du Bas-Canada, Canada Est, comme on l'appelait à cette époque-là. Donc, l'acte d'union a un effet dévastateur sur la société québécoise parce qu'elle nous fait régresser dans la mesure où elle permet l'émergence d'une idéologie traditionnelle. Elle nous enferme dans un jeu d'alliance où nous n'avons plus d'initiative, puisque les décisions sont prises par la majorité, et comme nous devenons une minorité dans le cadre de l'Union, à ce moment-là, les représentants politiques des Canadiens français sont obligés d'accepter des décisions qui sont prises en fonction d'intérêts des Canadiens anglais. Alors, c'est capital parce que ça nous oblige à intérioriser une stratégie défensive, une stratégie de survivance qui, et je vous le rappelle, cher Robert, cette stratégie évacue totalement l'idée d'indépendance pendant un siècle.
Non, non, c'est sûr, Robert, qu'avec La Fontaine là, de 1840 mais jusqu'en 1960, on a évacué complètement
totalement l'idée que les Québécois peuvent se diriger par eux-mêmes. Non, nous avons besoin du Canada. Le Canada est un pays qui a permis les libertés. Imaginez-vous, les libertés, c'est une fiction totale. Tout est fictif au Canada. C'est assez aberrant de constater ça. Même l'idée, même le nom Canada est une fiction. Le Canada n'est pas une confédération. On nous répète ça partout, le Canada, la Confédération canadienne. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Le Canada, à l'origine, n'a jamais été une confédération. Mais on nous entretient avec ces mythes pour créer l'illusion que nous avons la capacité, dans le cadre d'une province, de prendre nos décisions, mais dans un aspect, dans des dimensions très restreintes et de plus en plus restreintes. L'évolution du Canada nous a bien montré qu'on n'a plus de marge de manœuvre aujourd'hui.
En fait, on est passé d'une union législative à une union fédérale et non pas une confédération.
Exactement.
Mais ce qui est assez étonnant, c'est que là, on s'apprête à fêter le 150e, alors qu'on oublie qu'en 2015, ça fera exactement 175 ans que le problème a commencé. Le problème n'a pas commencé en 67. La mise en minorité politique,
oui, mais c'est sûr,
a commencé en 1840 et tout le monde évacue cette date de 1840.
Ben oui, parce que ça nous obligerait à reconnaître collectivement que nous sommes une minorité vouée à la subordination. Et évidemment, 1867 change une chose. Ça institue un centre d'autorité politique qui est l'Assemblée législative québécoise.
C'est vrai qu'après 37, on nous a enlevé notre Assemblée nationale pendant 30 ans. De 37 à 67, on a perdu cette maîtrise politique-là.
Si on veut comprendre l'évolution là, du Québec et la question de l'indépendance, il y a un fait qu'il faut assimiler. L'indépendance n'a été au cœur du débat politique. L'indépendance n'a été soutenue politiquement que pendant à peu près 9 ans dans l'histoire récente du Québec. 9 ans. De 1963 à 1974, c'est là où l'indépendance était le fer de lance du mouvement nationaliste. Après 1974, dès qu'on introduit le référendum, dès qu'on introduit le bon gouvernement, on dévie. Le projet dévie, il y a une dérive, parce que ce n'est plus la réalisation de l'indépendance qui est l'objectif de l'action politique, c'est la prise du pouvoir à Québec. Et évidemment, on fait un lien entre les deux. On dit, si on prend le pouvoir, on va faire un référendum. Bon. Et plus tard, on a même dit, ben non, on va prendre le pouvoir, mais on ne fera même plus de référendum. Donc, vous voyez à quel point on a régressé. Alors, c'est assez compréhensible que les Québécois se sentent pas trop enthousiastes pour un projet qui est pas soutenu par le parti qui s'en réclame.
Bien sûr, il y a toujours eu des individus, oui. Et ça, dans l'ouvrage qu'on a publié ensemble, les deux volumes de l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois là, chez VLB, on montre qu'il y a beaucoup d'individus, tant au 19e siècle, au 20e siècle, et des groupes.
Oui, mais ça n'a pas de conséquences politiques.
Ça n'a pas eu un grand impact sur la scène politique. On doit mettre fin à notre entretien. Alors, je rappelle que nous avons parlé du livre « Le devoir de cohérence, écrit indépendantiste », publié aux éditions de l'Action nationale. Merci beaucoup, Denis Monnière.
Merci, Robert.
Écoutez Nouveaux regards sur notre histoire sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. En cette deuxième partie de l'émission, Robert Comeau nous présente l'entrevue qu'il a réalisée avec l'historien Marcel Bellavance, qui a été professeur d'histoire et directeur du département des sciences sociales au Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a été chercheur à Parc Canada de 1976 à 1985 et chercheur-éditeur pour le Dictionnaire biographique du Canada de 1973 à 1976. Il a publié, entre autres, « Un village en mutation, Compton, 1880-1920 ».
Mais aujourd'hui, nous allons aborder avec lui un ouvrage qui a été publié il y a déjà un certain temps, en fait en 92, et qui aborde un sujet d'actualité. Effectivement, c'est la genèse de la Confédération de 1864 à 1867. On sait que cette année, on rappellera le 150e anniversaire de la Grande Coalition de 1864 et la Conférence de Québec qui a suivi en septembre 64 et jusqu'à la création de la Confédération. Est-ce que ça serait possible de nous dire un peu les grandes dates ou les grands moments de ce processus-là, là, qui a duré quelques années, de la genèse de l'Union fédérale? Alors, ça commence, j'imagine, en 64 avec la Grande Coalition.
Voilà, donc ça, ce sont les débuts. 64, Grande Coalition, c'est une grande crise institutionnelle. C'est qu'aucun ministère n'arrive à vivre plus d'un an. En l'espace de 10 ans, 10 ministères vont tomber. Donc là, en 64, encore une nouvelle crise. Et là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et auparavant, la Chambre des communes avait mandaté certains de ses membres pour étudier différentes solutions à la situation actuelle. Alors, ce comité-là de 4 personnes remettait presque en même temps que la crise, remettait son rapport dans lequel il recommandait de proposer une étude plus approfondie d'une fédération, d'une confédération de toutes les provinces de l'Amérique britannique du Nord, en fait, du Canada lui-même, c'est-à-dire du Canada uni.
En fait, donc, ce rapport-là, du 14 juin 64, là, de 4 oui. parlementaires, c'était pour remédier à l'instabilité ministérielle.
Voilà.
Donc, on passe d'une union législative à une union fédérale, en fait.
Oui.
Et très rapidement, donc le 22 juin 64, il y a un ministère de coalition qui s'est formé sur la base de cette entente-là.
Oui, il y a crise, mais on se dit c'est la solution, c'est la dernière solution qui nous reste. Et d'autant plus qu'en même temps, les provinces maritimes, c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, elles-mêmes pensaient déjà à adapter une fédération des seules provinces des maritimes pour régler ce problème institutionnel qui est l'instabilité chronique du système.
Mais pour revenir à la Grande Coalition, pourquoi on la trouve paradoxale? Il y a quelque chose de surprenant dans cette Grande Coalition de 1864.
La grande surprise, c'est l'entrée dans le cabinet du chef libéral du Canada anglais, qui s'appelait George Brown, lequel George Brown était le rédacteur en chef du Globe and Mail, mais je pense même le propriétaire du Globe and Mail. Et il s'est allié avec Georges-Étienne Cartier pour mettre en marche ce projet de fédération. Le choc qui s'est passé, c'est que ce George Brown en particulier était un anti-français comme c'était pas possible d'en trouver. On dirait aujourd'hui, il voyait les rouges dans sa... il voyait les bleus dans sa soupe, quasiment. Et pour Cartier, ça lui a demandé une renonciation incroyable parce que ça a été l'ennemi principal de Brown depuis des décennies. Et pour la population canadienne-française ou canadienne, comme on l'appelle à cette époque, la population ne pouvait pas penser qu'une union pareille pouvait être possible. Donc, du côté français, ça a été vu un peu comme une trahison de la part de Cartier de pactiser avec pire que Satan.
Et c'est ce qui explique peut-être que Mgr Bourgette, à ce moment-là, est pas trop chaud, en tout cas est inquiet de voir l'arrivée de Brown dans cette union-là.
Ah ben oui.
Donc, l'Église, au début, est plutôt méfiante.
L'Église n'est pas méfiante du tout. Bourget est un cas spécial. Ah bon? C'est parmi tous les évêques, Bourget fait presque toujours bande à part. Et pendant 4 ans, l'épiscopat font pression pour Bourget, qui lui dit « Vous vous prononcez pas assez sur la fédération. » Bourget voit dans cette alliance une union contre nature. Et Bourget disait toujours que même les conservateurs étaient trop libéraux. Et il a toujours voulu penser par lui-même quand on lui disait « Dans votre mandement, vous ne prononcez même pas le mot confédération. » Il va dire « Je sais quoi faire, je sais quoi écrire et c'est moi qui vais prononcer les mots que je voudrais bien prononcer. »
Mais ce que je voulais dire, c'est que l'Église, au début, ne se prononce pas officiellement.
Non, l'Église...
Elle va être silencieuse dans les
premiers...
Au tout début, hein, c'est exact.
Elle va être silencieuse, je dirais, pendant tout le temps où la Confédération elle-même n'était pas publique. On a parlé tantôt des provinces maritimes qui essaient, de leur côté, de former une fédération.
En fait, les colonies maritimes devaient se réunir en septembre 1964 à Charlottetown pour discuter de la façon de sortir de leur marasme économique.
C'est ça.
Et à ce moment-là, le Canada uni a délégué 8 représentants, dont Georges-Étienne Cartier et Langevin, pour les convaincre plutôt de se réunir à Québec, donc au mois de septembre, et c'est là qu'il va y avoir les résolutions de Québec, la conférence
Alors
de Québec.
Alors ça, la décision de Charlottetown n'est que celle-là. C'est la décision qui a été prise de réunir toutes les colonies britanniques à Québec pour écrire le projet de constitution.
Donc, c'est la conférence de Québec qui...
C'est la conférence de Québec qui dure une semaine à peine. On se demande comment ils ont fait pour écrire une constitution, parce qu'ils travaillaient 2-3 heures par jour. Le soir, c'était les banquets, le bal, et là, c'était l'éloge de la Québécoise, etc. C'était des moments de festivité que les journalistes ont eu plaisir à relater.
Mais ils sont quand même arrivés en septembre 1964 à élaborer un projet détaillé de constitution. Est-ce qu'on a appelé les résolutions de Québec, c'est ça?
Non, c'est pas tout de suite. Là, il y a le projet de constitution. On se réunit à Québec. À Québec, on prépare ce qu'on appelle un brouillon. Et chaque colonie devait retourner chez elle, dans sa capitale, pour soumettre le projet, pour faire adapter par sa propre législature le projet de constitution. Et ça allait plus loin que ça. C'est qu'il avait même été décidé que possiblement de faire une élection là-dessus, presque un référendum. Et la province du Nouveau-Brunswick, la colonie du Nouveau-Brunswick a été la seule à consulter la population et le projet a été rejeté. Alors, au départ, le projet prenait de l'aile. Le Nouveau-Brunswick n'ayant pas réussi elle-même à passer, l'île du Prince-Édouard était sortie déjà après les années 64, et là, on se retrouve devant une situation où le projet risque d'être compromis.
Donc, on peut dire qu'après la victoire des opposants à la nouvelle constitution là, qui était proposée au Nouveau-Brunswick en 65, les conservateurs du Canada uni ont décidé de ne pas procéder à une consultation, contrairement à ce qu'ils avaient dit en juin 64.
C'est ça.
Et le cabinet de MacDonald, Cartier, Galt et Brown ont rejeté toute forme de consultation populaire sur le projet.
Ça, c'est tout à fait vrai. Disons, les idées démocratiques ne pesaient pas lourd à l'époque. Quand on reprochait aux conservateurs à la coalition d'instaurer un nouveau système sans consulter la population, MacDonald disait « Nous avons été élus pour parler à votre place. » Et puis c'est comme ça que ça marche. Cartier disait « Les idées démocratiques, n'en est pas question. La démocratie états-unienne, c'est couper les têtes, en égalisant les têtes, en coupant les meilleurs. » Il y a eu tout un discours antidémocratique à ce moment-là quand les gens reprochait aux ministres et aux députés de ne pas avoir consulté la population.
Donc, il y a eu un...
Et là, il y aura peut-être, excusez-moi, c'est que là, il y a un incident entre ça, parce que là, il y a des acteurs là qui apparaissent, dont le clergé. On disait tantôt, le clergé n'a pas parlé tout de suite, il est resté silencieux. Effectivement, il a été silencieux jusqu'en mars 67, parce qu'en mars 67, la Constitution va être acceptée à Londres. Donc, pour ce qui est de l'épisode du Nouveau-Brunswick, Cartier va écrire au grand vicaire Cazot, qui est un de ses grands amis, et qui a entretenu une correspondance pendant presque 50 ans. Cartier demande donc à Mgr Oran de Kingston, qui est un catholique formé à Québec, et au grand vicaire Cazot, d'aller dans les Maritimes pour convaincre les catholiques dans les Maritimes d'accepter la Confédération. Et quand ils reviennent, il écrit, j'ai la lettre là où Cazot écrit à Cartier et il lui fait part des remerciements d'avoir mené sa mission avec grand succès, et en signalant aussi en même temps qu'il y a un chèque qui les attendait. La mission ayant été très bien menée, ça méritait bien une aide de cette nature. Donc ça, cet élément-là est important parce que il y a là déjà une intervention du clergé, mais c'est pas public. Tout ça, c'est dans la correspondance, dans des rapports de comités, et aussi là où le débat public va vraiment s'enclencher, c'est quand, après le 1er mars, donc après l'acceptation à Londres, là, il y a vraiment la discussion. Là, le projet devient public, et c'est là où les acteurs apparaissent. Et c'est là où, pour la première fois, le clergé donne son opinion par l'intermédiaire de Cartier. Cartier qui va dire en chambre, j'ai rencontré le grand vicaire ou l'évêque et l'Église m'a assuré que le clergé était favorable à la Confédération. Alors là, ça c'est important parce qu'il fallait dire ça, parce que là, il y a des électeurs qu'il faut convaincre.
Mais avant d'arriver à l'élection, on va revenir un petit peu en arrière. En mars 65, l'Assemblée législative du Canada uni va adopter les résolutions là, de la Conférence de Québec. Et on dit que c'est avec une majorité d'une seule voix chez les députés canadiens-français. Et les deux grands enjeux, c'était la question des droits des minorités pour les francophones hors Québec, en Ontario, quoi.
Ouais.
Et là-dessus, il y a eu tout un débat. Est-ce qu'on va mettre dans la Constitution de protection
pour... Oui, le problème est soulevé,
oui.
Mais ça n'est pas réglé. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que durant l'hiver 66, le dernier hiver, avant qu'on aille à Londres, il a été décrété qu'il fallait accepter la Constitution, comme il disait, in globo. C'est-à-dire dans sa totalité, impossibilité de revenir sur certains articles pour les amender. Il va y avoir cependant deux domaines où cela va pouvoir se faire. C'est sur le mariage et le divorce, et aussi...
Et les droits des minorités francophones.
Et les droits des minorités. Et à cet effet, pour que l'entente se fasse plus facilement, il a été convenu que le ministre Langevin, avec un député conservateur ou libéral de l'Ontario qui s'appelait Bell, donc c'est le Bill Bell Langevin, où les députés ontariens votaient une loi protégeant les droits français, l'anglophone pour les droits des Français, et vice-versa pour l'anglophone. Alors là, ce projet de loi a été présenté en Chambre et il a été défait. Alors là, vous ne pouviez pas avoir meilleur exemple là, de l'ouverture de certaines personnes. Vous avez là un député qui défend les droits d'une population d'une autre province et vice-versa. Et malgré ça, la population ontarienne va bloquer le projet, ce qui fait que le problème des minorités va ressurgir à Londres. Et c'est Galt qui va faire passer une loi. Et c'est ce qui va devenir l'article 92 de la Constitution. C'est Galt qui va travailler à la protection des droits et uniquement pour les anglophones.
Galt défend les droits des anglophones au Québec. Hein,
ouais.
Et c'est là aussi qu'il y a des comtés protégés pour eux. Et ce qui est étonnant, c'est que Cartier a laissé tomber complètement les francophones, les catholiques francophones hors Québec.
C'est ça.
En disant, si on est généreux au Québec, ben, ils vont nécessairement faire la même chose.
C'est ça.
Par l'exemple. Hein?
Oui. Alors, il y a une correspondance sur l'attitude de Cartier et des autres, parce que pour la sanction royale de mars 67, Cartier est à Londres, Langevin est à Londres, Galt est à Londres, et il y a aussi un évêque anglophone qui aussi va être là pour défendre selon quartier les droits des catholiques francophones et anglophones en même temps.
Donc, il y a eu une sanction royale le 1er mars 67 et ça a été inauguré le 1er juillet. Est-ce qu'il y a eu des grandes fêtes ici pour notre entrée dans l'Union fédérale?
Moi, dans ce que j'ai lu, c'est surtout dans la presse qu'on peut voir ça. J'ai parcouru pas mal les journaux de cette période. Et pour ce qui est de 67, ici, c'est passé comme un phénomène divers. Il n'y a aucune réjouissance sur le parvis de l'église, des bals populaires, des feux d'artifice, etc. Tout ce qu'il y a, c'est un Te Deum dans la cathédrale de Québec.
Très tôt, Mgr Laflèche a préparé une intervention officielle de l'Église et a préconisé de mettre sur pied des mandements, hein, d'établir des mandements que chaque évêque devait faire dans les 5 diocèses du Québec. Oui. Et ça a été une position officielle de l'Église?
Ah oui, là on arrive, là on est vraiment à plein dans la situation officielle. C'est que Mgr Laflèche, c'est plutôt casé au début parce que Laflèche arrive à l'épiscopat à ce moment-là. Et Mgr Laflèche, qui est le plus grand défenseur de la Confédération puis du mouvement, c'est lui qui pense, qui développe toute la pensée conservatrice, les rapports de l'Église et de la société. C'est un intellectuel qui, à certains points de vue, est assez progressiste, c'est assez surprenant, dont, par exemple, sa pensée sur la nation. Alors lui, ce qu'il fait, il propose un plan de lettres. Puis là, il consulte tous les évêques, il donne à peu près le schéma. Puis chacun brode autour de la même idée, mais en ne disant pas autre chose, là, toujours en étant fidèle au brouillon. En mai 67, les mandements sont publiés dans lesquels l'épiscopat énonce ses directives sur les comportements souhaitables durant l'élection. Et la pensée de l'évêque sur la Confédération, c'est qu'un catholique, à l'élection, doit, en conscience, voter pour le gouvernement, pour la Confédération. Voter contre la Confédération, c'est aller contre l'ordre établi, c'est aller contre même les principes même, la base même de la religion.
On en faisait même une question de péché mortel.
Ah oui.
Quelqu'un alors, qui était contre la Confédération péchait.
Oui. Par exemple, il y a 5 ou 6 paragraphes, il y a une gradation. Vous votez rouge, donc c'est un péché. Si vous avez voté rouge et c'est un péché, c'est que à ce moment-là, c'est une faute. Cette faute-là demande réparation, c'est-à-dire l'ordre que reçoit le curé de condamner la nouvelle Constitution et surtout de dire que voter rouge, c'est faire un péché, non pas un petit péché véniel, mais un péché mortel qui demande réparation, c'est-à-dire doit s'engager à ne pas voter pour les rouges dans l'avenir. Donc c'est loin, là, c'est l'institutionnalisation presque dans une constitution d'une voie
d'une et voix il fallait s'engager à ne plus lire de journaux libéraux. C'est drôle comment la question religieuse est au cœur de tout ça. On n'a pas le choix. Alors, que faisaient les libéraux qui, au départ, prêchaient un fédéralisme décentralisé? Ils étaient coincés avec le rôle du clergé. Alors, ils vont être obligés de dénoncer l'influence indue du clergé et ça va porter là-dessus essentiellement.
L'élection porte presque uniquement là-dessus. Et ça va très loin dans la caractérisation de ce que c'est. Quand on dit qu'est-ce que c'est que les rouges? C'est le bien contre le mal. C'est de ne pas reconnaître le pouvoir de Dieu. Enfin, c'est une thématique purement religieuse qui enferme les rouges dans une argumentation dans laquelle, en fait, ils n'avaient pas le goût d'entrer.
Non, ils n'ont pas pu réussir à faire valoir le point de vue que le droit d'élire le candidat de son choix, c'est ça qu'il fallait faire. Ils n'ont pas réussi à faire passer ça.
Et donc, on peut le vérifier parce que j'ai étudié aussi ce qu'on appelle la pascalisation des fidèles. C'est-à-dire que chaque année, comme catholique, on doit communier. C'est-à-dire faire ses Pâques. Mais ça, on peut calculer, c'est comptabilisé dans le rapport que le curé fait à son évêque tous les 4 ans et que l'évêque fait au Vatican par la suite. Dans ce rapport-là, il y a 3 parties. Il y a 3 éléments. Il y a un élément comme premier qui s'appelle le status animarum, donc c'est la démographie. Status morum, c'est les mœurs, et c'est là-dedans qu'il y a un chapitre sur l'élection. Et on peut savoir combien de sacrements ont été refusés et des choses comme ça, il y a tout là.
Donc, après l'élection de 67, donc en 68, dans plusieurs paroisses, on constate qu'il y a moins de gens qui sont allés communier. Mais est-ce là, on qu'il est déjà rendu après l'élection.
Bon,
là.
Mais non, il faut revenir derrière ça.
Revenons un peu, donc, à l'entrée en scène, d'abord, des curés qui apparaissent là, lorsqu'on annonce des élections pour l'automne 67. C'est à ce moment-là que les mandements ont été faits, ont été élaborés, puis là, on demande aux curés...
De lire en chaire.
De les lire et de voir à ce que ça soit appliqué strictement. Est-ce que les curés ont appliqué ça strictement?
D'abord, ils avaient dans la lettre que l'évêque La Flèche envoie à ses curés, il le dit ça, c'est que les curés doivent en chaire expliquer et donner les directives. Et c'est une lettre extrêmement importante qui est très longue, mais qui montre toute la démarche.
Vous avez développé d'ailleurs tout un chapitre de votre ouvrage sur l'encadrement des électeurs. On va y revenir. Mais avant, est-ce qu'on pourrait décrire un peu le climat social qu'il y avait au Québec avant les élections, donc de l'automne 1867? Mais le climat général, c'est qu'on est dans une guerre entre libéraux et conservateurs. Les évêques avaient déjà condamné l'Institut canadien et le climat...
Les journaux.
Les journaux. Et il y avait aussi beaucoup de problèmes sociaux. À Québec, par exemple, là, ça n'allait pas très bien, l'économie.
Parce qu'il y avait crise dans la construction navale, en particulier.
L'industrie navale.
L'industrie navale. Il y a un incendie en 1966 qui détruit une partie de la ville. Je pense le quartier Saint-Jean-Baptiste, je pense.
Puis il y a aussi le fait que la capitale fédérale, en 1965, a quitté. Donc, c'est toute l'administration qui part. Donc, il y avait un sérieux problème au niveau économique dans la ville de Québec. Et à Montréal, vous aviez Médéric Langteau. Vous en parlez assez longuement.
Médéric Langteau, c'est, enfin, on dirait un tiers-parti. Il a fondé ce qu'il appelle l'Union nationale.
Un journal.
Un journal. C'est presque aussi un mouvement ouvrier. Il y a, à l'époque de l'élection, un grand défilé à Montréal qui réunit près de 15 000 personnes, ce qui est énorme. Et là, vous avez les gens qui défilent par ordre de métier. Nous, les cordonniers, sans vous, les bourgeois, vous ne pourriez pas marcher.
Donc,
ils
sont contre la Confédération.
Ils sont contre la Confédération, oui, oui. C'est les plus radicaux, là, de tous les groupes, là, qui se sont prononcés.
Mais je pense que Cartier s'est présenté...
Dans le même comté.
Dans le même comté que Langteau, et il n'y a pas eu une très forte majorité.
Oh non, et Cartier a remporté le comté par quelques voix.
Donc, à cette élection de l'automne 67, c'était le frère de l'évêque de Rimouski, Hector Langevin, qui était l'organisateur des conservateurs pour tout le Québec. J'imagine que ça a dû favoriser les choses, puisque Langevin est ministre...
Il a été ministre des Travaux publics, parce qu'il y a le scandale, le fameux scandale là, des années 1870 avec McGravy de Québec.
Alors, vous montrez, en fait, qu'il a pu compter sur le zèle des curés de paroisse.
Ouais, c'est autant de travailleurs d'élection, ça.
Et vous parlez longuement de 2 moyens, la chaire et le confessionnal. Pouvez-vous donner un peu peut-être quelques illustrations de ça? La chaire, j'imagine, c'était pour faire des menacer de refuser les sacrements aux désobéissants. Ouais,
voilà, c'est de la chaire que les directives venaient, c'est de la chaire que la pensée et l'argumentation devaient se faire, ou le confessionnal. Alors souvent, dans certaines correspondances, l'évêque disait à un curé, il y a telle personne là qui ne semble pas être réceptif à notre discours. Alors, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire trop de bruit, de faire trop de menaces. Agissez donc par la confessionnelle, c'est beaucoup plus discret. Et en d'autres mots, n'essayez pas d'intervenir si vous ne gagnez pas.
L'enjeu de cette élection-là, au fond, c'était moins la question de la Confédération que d'abattre le Parti libéral en combattant les candidats libéraux.
Oui.
Et l'Église semblait fière, disons, d'avoir fait passer la Confédération. Ça semble quelque chose qu'elle n'a pas rejeté ou nié.
Non, elle n'a pas rejeté, mais elle était favorable. Et elle va même dire à Cartier, à un moment donné, Cartier qui, justement, ne défend pas au goût de Cazot, son grand ami des droits scolaires, Cartier va se faire dire par Cazot, « Vous savez, vous êtes aussi bien de le dire que nous sommes intervenus dans l'élection, puis qu'on vous a supporté, qu'on a été d'accord avec nous. Parce que si nous n'avions pas été là, le drapeau anglais n'aurait pas flotté longtemps sur la citadelle. »
Vous énumérez dans votre livre tous les moyens pour nuire aux candidats opposés à la Confédération. Mmh. Vous avez signalé la condamnation en chaire des candidats, le patronage par le curé, l'achat des votes. Hector Langevin, d'ailleurs, dit que ça coûte cher, il faut acheter les votes. Vous avez aussi les manœuvres électorales, les libéraux qui se sont désistés sous les pressions. Ils ont pu avoir été invités, je peux dire, à ne plus se présenter. C'est comme ça que ça pouvait se passer. Soit qu'on les dédommage, on leur donnait un montant d'argent pour qu'ils ne se présentent pas comme candidats d'opposition, ce qui explique le haut taux de candidats qui se sont désistés en cours de route. Il y avait aussi, c'est assez particulier, les enlèvements. Pouvez-vous nous expliquer ça? Des candidats qui se faisaient enlever au moment de l'appel nominal. C'était quoi exactement?
On appelait ça une élection par escamotage. Cette élection par escamotage signifiait que on enlevait le candidat avant qu'il ne se présente sur les hustings pour annoncer sa candidature. Parce que selon la loi, si pendant ce X temps, un électeur ne se présentait pas, donc on déclarait le candidat élu, et pour être bien sûr que le candidat soit élu, on l'enlevait, et le candidat pouvait revenir deux jours plus tard, une fois l'élection terminée.
Au fond, ça explique un peu, ça me fait comprendre un peu la lettre de Langevin qui explique à Cochon qu'il serait élu plus facilement en évitant la lutte. Mmh. Ça coûterait beaucoup moins cher que de devoir payer des électeurs. Donc, s'arranger pour que l'opposant ne puisse pas se retrouver donc physiquement là, sur l'hosting au moment de l'appel nominal. On dit qu'on ne vota que dans 42 comtés sur 65.
C'est ça, l'abstention.
Donc il y avait beaucoup d'abstention. Oui. Alors, les autres moyens, vous avez évidemment la menace de l'excommunication, la calomnie comme outil de propagande et l'achat du vote. Ça semble assez généralisé. Vous apportez beaucoup de témoignages là, de Cartier, entre autres, qui parlent de sommes importantes, 10 $ par...
Ah oui, avec Baudry.
Avec Baudry,
oui.
C'est Cartier qui dit que c'est grâce à l'homme d'affaires...
À l'homme d'affaires qu'il a réussi à gagner ses élections, oui.
Et il y avait évidemment Hugh Allen et la compagnie du Grand Tron qui finançait Cartier. Alors, on se gênait pas à l'époque pour dire clairement l'achat des votes, c'est une... On se cachait pas, quoi. Alors, au fond, votre conclusion de tout ça, c'est que l'élection de 67, ça a été une élection assez particulière. Ça n'a pas été du tout une élection libre, si je comprends bien.
Je veux dire, comme événement fondateur, c'est un peu triste.
Est-ce qu'on peut dire que l'élection de 67, ça a été au fond une lutte à finir entre des libéraux et clergé?
Oui, moi je pense que vous avez raison de dire ça. D'autant plus que la fin, la véritable fin du libéralisme dans son vrai sens, c'est qu'il y a quelques années plus tard, un procès, et je crois que c'est dans un comté de Saguenay ou Charlevoix, je ne sais plus. Enfin, dans un des comtés de cette région-là.
On a contesté l'élection en disant qu'il y avait une influence indue. Hein, c'est ça.
C'est ça. Et le clergé a perdu. C'est que l'élection est annulée à cause d'une influence indue. Alors, ce qui me fait dire que, dans le fond, si on avait appliqué à l'élection de 67 dans son ensemble le même jugement que le jugement de 1872 dans le comté de Saguenay, disons, mais je ne suis pas sûr que ce soit celui-là, en fait, l'élection serait illégale et n'aurait pas été gagnée. D'où l'idée du choix libre.
Effectivement. Et on voit aussi que s'il y a eu beaucoup d'abstentionnistes, c'est pas parce qu'ils se désintéressaient de la politique, c'est vraiment parce que la religion est encore très forte et elle avait une emprise importante et l'Église pouvait faire des pressions qui justifiaient ces taux importants d'abstention. Donc, qui n'est pas lié du tout au désintéressement des affaires politiques. Alors, c'est comme ça que les conservateurs ont donc remporté la victoire et ce fut le succès de l'Église.
Voilà.
Je vous remercie, M. Balavance.
Bonne conclusion. Merci.
Vous venez d'entendre l'entrevue réalisée avec Marcel Benavance, qui a publié son ouvrage intitulé « Le Québec et la Confédération, un choix libre », paru chez Septentrion. Ainsi s'achève cette émission. Nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain 18h sur les ondes de Radio Ville-Marie à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.